Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, je vous propose de réagir aux violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud. Depuis dimanche, le pays est une fois de plus le théâtre d'attaques racistes visant des ressortissants africains victimes d'agressions et de pillages. Le dernier bilan officiel fait état de 7 morts, des ressortissants accusés par une partie de la population d'être responsables du chômage et de la criminalité. En tout cas, sur le continent africain, ces violences suscitent indignation et inquiétude. Le président de la commission de l'UA a dénoncé des attaques abjectes. Le Nigeria et la République démocratique du Congo ont décidé de boycotter le Forum économique mondial Afrique qui s'est ouvert hier au Cap. Alors que vous inspire la récurrence de ces tensions en Afrique du Sud? Quelle image vous renvoie finalement la nation arc-en-ciel? On en parle ensemble, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux de l'émission, plus de 700 commentaires postés sur WhatsApp et la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction. On a des questions ce matin sur le verdict du procès du coup d'État manqué au Burkina Faso, c'était en 2015. Des questions également sur les attaques du 11 septembre 2001, avec un procès en vue, très certainement dans 18 mois. Mais d'abord, des questions sur la lutte contre les violences conjugales. Bonjour Ababacar.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de N'Djamena au Tchad. Nous vous écoutons.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. J'ai des questions au sujet qui fait la une des presse françaises.
Oui.
En France, plus d'une centaine de femmes sont mortes sous le coup de leur conjoint depuis le début de l'année. Des concertations vont être à l'initiative du gouvernement pour lutter contre ces drames. Quelles mesures peuvent être mises en œuvre à l'issue de ces rencontres? Et quelles sont les grandes réformes prévues?
Oui, c'est vrai que depuis mardi et jusqu'au 25 novembre, des représentants des services de l'État, des associations, des personnels soignants, des magistrats, des proches des victimes, mais aussi des avocats, vont échanger, dialoguer un peu partout à travers la France pour élaborer des propositions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre les féminicides. Vous le disiez à Bakar, 101 femmes ont été tuées en France depuis le début de l'année par leur compagnon ou leur ex, et lutter plus généralement contre les violences conjugales auxquelles plus de 200 000 femmes témoignent chaque année être confrontées. Bonjour Marie Cazadebé.
Bonjour Juan et bonjour Ababacar.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service France de RFI. Vous étiez à Matignon mardi pour le coup d'envoi de ce qu'on appelle le Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Le Premier ministre Édouard Philippe était évidemment présent. Difficile évidemment de répondre avec précision à la question posée par Ababacar.
Oui, parce que si on suit la logique du gouvernement français, c'est la nouvelle politique globale de lutte contre les violences conjugales, et bien on ne la connaîtra qu'à l'issue de ce Grenelle le 25 novembre, vous l'avez dit, puisque c'est tout l'objectif d'un Grenelle, d'une table ronde, c'est la concertation, tous les acteurs avancent des propositions. Mais c'est vrai que mardi, le gouvernement a donné le ton en annonçant des mesures d'urgence. Alors il y a celles qui vont dans le sens des attentes des associations, il y a celles qui le déçoivent, qui ne vont pas assez loin, les militants auront le temps du Grenelle pour tenter de les faire évoluer, et puis il y a celles qui étaient totalement absentes du discours du Premier ministre, et que les associations vont tenter là d'amener aussi sur la table.
Alors commençons par celles qui font déjà l'unanimité.
Eh bien, elles concernent le secteur judiciaire. En partant d'un constat, la réponse de la justice est trop longue. C'est parfois au cours de ce délai, c'est-à-dire entre la plainte et la sanction, qu'un homme peut passer à l'acte. D'où la nomination de procureurs référents spécialisés dans ce type de dossier et de chambres d'urgence. Une expérimentation va être lancée à Créteil, près de Paris, pour que certains dossiers puissent être traités en 2 semaines seulement. Une autre demande des associations, mais là, elle sera appliquée qu'en 2020, c'est l'utilisation de bracelets électroniques anti-rapprochement. L'auteur de violence pourra en être muni avant même sa condamnation. La victime, elle, sera dotée d'un récepteur. Donc, quand le premier s'approche de la seconde, eh bien, il y a un signal qui est émis et l'auteur ou l'auteur présumé est signalé à la police. Et puis, une mesure aussi saluée, c'est le droit parental. Édouard Philippe a battu en brèche une idée reçue. Un homme qui bat sa femme n'est pas forcément un mauvais père. Donc désormais, tout auteur, même présumé de féminicide, se verra automatiquement suspendre son droit parental sur ses enfants.
Pour ce volet, donc, les associations applaudissent. Ce n'est pas le cas pour toutes les mesures annoncées mardi par le Premier ministre.
Et non, notamment à propos du dépôt et de la prise en compte de la plainte. Alors pour comprendre l'importance de ces questions, le témoignage d'un père mardi, juste avant l'intervention du Premier ministre. Sa fille a été tuée par son ex-conjoint en mars dernier. Elle avait déposé 6 plaintes, toutes classée sans suite. Elle était encore à la gendarmerie 48 heures avant sa mort. Alors pour éviter ces dysfonctionnements, le gouvernement annonce des audits dans 400 commissariats de gendarmerie pour faire le point sur ce qui ne marche pas et comment faire mieux. Et c'est là que les associations soulignent que cela ne répond pas à l'urgence de la situation. Elles estiment avoir déjà une expertise sur le sujet, savoir donc ce qui marche pas et quelles seraient les solutions les plus efficaces. Il y a aussi la faible réponse sur l'hébergement des femmes qui quittent le domicile conjugal. Le gouvernement annonce 1000 places supplémentaires au lieu des 2000 réclamées. Et les associations relèvent en plus qu'une partie n'est pas adaptée. Des victimes pourraient être accueillies dans des hébergements d'urgence aux côtés d'hommes qui vivent dans la rue, par exemple.
Voilà. Et il y a aussi des sujets qui sont très importants pour les associations, mais qui n'ont pas du tout été abordés par le Premier ministre.
L'éducation, d'abord, essentielle pour les militants qui partent du principe que la lutte contre ces violences doit se faire dès l'enfance. Et puis le budget, Édouard Philippe n'a évoqué que les 5 millions d'euros alloués à l'hébergement. Rien sur l'enveloppe globale, les associations y seront très attentives lors de ce Grenelle. Elles espèrent plus de 500 millions d'euros. On verra donc le 25 novembre si cette concertation aura permis de rapprocher les points de vue et puis quelle politique le gouvernement lancera à l'issue donc dans cette grande concertation.
Et on suivra évidemment tout cela avec vous, Marie Cazadebé du service France de RFI. Abakar, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, j'en ai une autre.
Vous en avez une autre, alors très très rapidement alors.
Bon. Quelles mesures prendre-t-il contre les violeurs une fois qu'ils soient déclarés coupables ?
Ah bah ce sont directement des condamnations, c'est un autre sujet, mais évidemment un violeur reconnu coupable, c'est la prison.
Et sachant qu'évidemment dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les luttes de violences conjugales, il est pris en compte justement le viol au sein même d'un couple marié ou non.
Marie Cazadebé, merci de toutes ces explications. À Bakar, bonne journée à Djamena au Tchad, il est 10h17 à Paris, on repasse au standard au 33 9 693 693 70. Je vous le disais en préambule, nous avons des questions sur le verdict du procès du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue sur l'antenne de RFI, nous vous écoutons.
Après le procès du coup d'État manqué au Burkina Faso, les deux généraux, Gilbert Dengéré et Djibril Bassé, sont condamnés respectivement de 10 ans à 20 ans de prison ferme.
Oui.
Djibril Bassé a été condamné sur la base de l'enregistrement de l'écoute téléphonique, où l'on entend en conversation avec Guillaume Soro. Alors, j'aimerais savoir quel suite sera donné à l'implication de Guillaume Soro dans le coup d'État manqué au Burkina Faso.
Et vous n'êtes pas le seul à nous avoir posé cette question depuis 48 heures, Christian. C'est vrai que le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été cité dans cette affaire du putsch manqué. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour Christian.
Correspondant de RFI au Burkina Faso, vous avez suivi ce procès pour RFI. Djibril Bassolé, l'un des deux cerveaux du coup d'État manqué, a été condamné sur la base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec Guillaume Soro. Christian l'évoquait à l'instant. Dans cette conversation téléphonique, on entend l'ancien ministre Bassolé évoquer donc avec celui qui était à l'époque le président du Parlement ivoirien un plan de soutien financier et opérationnel aux militaires qui tentait de prendre le pouvoir par les armes. Djibril Bassolé a été condamné, mais quid de Guillaume Soro ?
Oui, concernant Guillaume Soro, il faut noter qu'il n'y a pas de procédure ouverte contre lui ici au Burkina Faso. Le mandat d'arrêt international qui avait été émis contre lui a été retiré. Alors, les autorités ont engagé une procédure de dénonciation, ce qu'on a appelé le règlement diplomatique de l'affaire. Le Burkina Faso a exposé les faits et les éléments contre l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne devant les premières autorités. Après le procès, en principe, une fois le général Djibril Bassolé condamné, ce qui est fait, la Côte d'Ivoire doit ouvrir une procédure contre Guillaume Soro, mais à une seule condition, qu'une information judiciaire soit ouverte contre Guillaume Soro d'abord au Burkina Faso.
Ah oui.
En ce moment, le Burkina Faso demanderait à la Côte d'Ivoire de l'extrader. Et comme la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses propres ressortissants, elle se verrait obligée d'ouvrir une procédure contre Guillaume Soro et l'entendre. Or, aucune poursuite n'est engagée contre Guillaume Soro en ce moment au Burkina Faso. Donc, en conclusion, le général Bassolé est condamné, mais Guillaume Soro n'y risque rien puisqu'il n'y a aucune poursuite contre lui au Burkina Faso.
Oui, en tout cas, Guy Hervé Kam, l'un des avocats des victimes du putsch, ne va pas par quatre chemins, il ne mâche pas ses mots. Hier, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il affirme « Si Bassolet a été jugé coupable, c'est que Soro l'est aussi ». Fin de citation. Vous aviez une autre question, Christian ?
Oui, une seconde phase du procès doit avoir lieu concernant les victimes et les blessés. Quand doit-elle débuter et en quoi consistera-t-elle ?
Ah, quand va débuter cette deuxième phase du procès ? Il va falloir évidemment indemniser les victimes. Je rappelle que ces événements ont fait 14 morts et près de 300 blessés. Yaya Boudani, à quand une nouvelle audience ?
L'audience est prévue pour le 22 octobre prochain. Elle va consister pour les blessés ou parents des victimes à réclamer des indemnisations. Et cette procédure se tient après le verdict du procès. Elle ne concerne que les personnes reconnues coupables et condamnées. Donc c'est au cours de cette deuxième phase que les blessés, parents des victimes ou tous ceux qui ont subi des dommages du coup d'état manqué vont demander à être indemnisés.
Oui, on aura l'occasion largement demain dans la libre antenne de revenir sur ce verdict du procès du coup d'état manqué au Burkina Faso. C'est un sujet qui ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez été très nombreux hier à souhaiter prendre la parole. Donc on prolongera demain dans la libre antenne le débat. Merci Yaya Boudani. Bonne journée à Ouagadougou. Et je remercie Christian qui nous appelait de Gosbeïda à l'est du Tchad. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte ce matin en vous parlant que toutes les questions que nous avons sélectionnées, eh bien, ce sont des auditeurs du Tchad. Le premier auditeur était à N'Djamena, Christian à Gosbeïda. Eh bien, on retourne dans la capitale tchadienne. Bonjour Valentin.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la radio RG.
Merci de votre fidélité. On vous écoute. Quelles sont vos questions ?
Et Monsieur Juan Gomez, alors le 11 janvier 2021, s'ouvrira à Guantanamo le procès des accusés du 11 septembre. Alors, ma question est de savoir pourquoi le procédure arrive-t-il si tardivement, sachant que les accusés étaient inculpés il y a de cela 10 ans.
Ouais, c'est une bonne question que vous posez. C'est incontestablement l'un des procès les plus attendus de l'histoire des États-Unis. Bonjour Geneviève Garrigos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancienne présidente d'Amnesty International. Vous êtes désormais responsable de la coordination Amérique pour Amnesty International France. Alors, soyons clairs, l'information n'a pas encore été confirmée, mais selon la presse américaine, le procès du cerveau autoproclamé des attentats du 11 septembre aux États-Unis, ainsi que le procès de 4 de ses complices, devrait s'ouvrir le 11 janvier 2021. La question de Valentin, elle est pertinente. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi cette procédure est si longue. On sait que les accusés sont détenus à Guantanamo depuis plus de 15 ans, et Valentin le rappelait, ils sont inculpés depuis 10 ans.
Effectivement, cela peut sembler très long, mais c'est dû à la complexité du dossier. Et ce dossier est très complexe, d'une part parce que dès le début de la guerre contre le terrorisme, George Bush, lui, a créé un vide juridique qui était dû au fait qu'il a donné aux prisonniers, notamment de Guantanamo, le statut de, il a créé le statut de ennemi combattant, ce qui faisait qu'il sortait complètement de tout droit, que ce soit celui des soldats dans un conflit ou des civils. Et l'autre point, c'est que c'était basé à Guantanamo et qu'il considérait que l'extraterritorialité faisait que le droit américain ne s'appliquait pas. Or, on voit, et c'est tout au long de ces années, d'une part, il a été créer des commissions militaires qui devaient juger les personnes qui étaient inculpées. Or, en 2009, quand Barack Obama arrive à la présidence des États-Unis, il suspend les commissions militaires et demande à ce que les personnes soient jugées devant un tribunal civil, pénal, aux États-Unis. Or, pendant toutes ces années, eh bien, il y a eu des allers-retours, tout simplement parce que les tribunaux, les démocrates, le Congrès s'opposaient à la venue sur le territoire des États-Unis de ces prisonniers. Donc là, a priori, il semble que le dossier reparte et que les commissions militaires vont à nouveau fonctionner. Parallèlement, quand je parlais de la nature même du dossier, c'est que pour reprendre justement le cas de Khaled Sheikh Mohamed, qui est l'autre proclamé, comme vous le disiez très bien, le cerveau des attentats du 11 septembre, bien, juste là aussi pour refaire une chronologie, et on voit ce qui rajoute de la complexité, il est arrêté en 2003 au Pakistan. Mmh. Et jusqu'en 2006, date de son transfert à Guantanamo, il va être détenu dans des centres de secret de la CIA qui était à l'époque disséminée dans différents pays, notamment au Moyen-Orient. Or, pendant cette période, il va subir de la torture, hein, et un rapport notamment du Sénat sur la torture a mis en lumière qu'il aurait subi plus de 180 simulacres de noyade.
C'est exactement ce que dit son avocat d'ailleurs.
Hein. Absolument. Et depuis le départ, il y a cette question, est-ce que ces plaintes, quelles sont les preuves, puisque les dossiers aussi sont en grande majorité secrets, quelles sont les preuves de ce qu'il annonce? Parce que en fait, en 2007, donc quelques mois après son arrivée à Guantanamo, au cours d'une audience, il va faire une déclaration qui surprend tout le monde. D'ailleurs, on se demande si c'est lui qui l'a écrite, où il s'accuse notamment d'une trentaine d'attentats, dont l'organisation de l'attentat du 11 septembre. Et toute la question, c'est la notion de sur quoi est étayé le dossier, sachant que les plaintes, les aveux reçus sous la torture sont difficiles à valider hors preuve, parce qu'on sait très bien que les gens peuvent être amenés à dire ce qu'on attend d'eux. D'autant que dans le cas de Khaled Sheikh Mohammed, quand les avocats lui ont dit attention, avec ce que vous avez avoué, vous allez être condamné à la peine de mort.
Oui.
Et lui, s'est tout de suite proclamé en disant mais je suis d'accord, je veux être un martyr, etc. Mmh. Donc il y a sa personnalité à lui derrière. Et ce qui est très difficile à l'heure actuelle, et là aussi c'est d'un côté, il faut absolument que les droits de la défense, bien sûr, soient respectés, ce qui, dans un vide juridique, pose toujours des problèmes, surtout quand il y a des dossiers qui sont classés. Mais d'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2001, les familles des victimes du 11 septembre, elles attendent la vérité. Or, avec des aveux obtenus sous la torture, elles ne savent pas si c'est effectivement la vérité. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, depuis le départ, nous demandons d'ailleurs que le procès ait lieu devant un tribunal pénal et que les familles, comme la défense, hein, que toutes les parties prenantes puissent avoir accès au dossier et aux éléments de preuve qu'il y a derrière.
En tout cas, ce qui est prévu pour l'instant, c'est que le procès ait lieu devant une justice militaire, et le procès, théoriquement, si on en croit la presse américaine, aura lieu sur la base militaire américaine de Guantanamo. Merci beaucoup, Geneviève Garrigaud, d'avoir pris le temps ce matin de nous éclairer grâce à la question de Valentin qui nous appelle Djamena. On a été un peu gourmand ce matin, on avait prévu d'autres questions, et notamment des questions sur les fissures au sein du parti présidentiel en Turquie. Je vois que l'actualité turque et les déboires du président Erdogan vous intéressent, hein. On a régulièrement des questions. Donc Bruce, je sais que vous êtes au standard, que vous m'écoutez en ce moment, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle demain matin et on prendra le temps de vous répondre. Ce serait trop dommage en 1 minute 30 de bâcler une réponse sur un sujet intéressant, puisqu'on voit bien que au sein même du parti présidentiel turc, des personnalités démissionnent les unes après les autres, et certaines personnalités sont même aujourd'hui menacées d'être exclues de cette formation présidentielle. Donc voilà, c'est intéressant, on en parle demain. Bruce, comptez sur moi, c'est promis. À suivre, dans 10 minutes, comme tous les matins, notre débat du jour. Y a-t-il lieu à débattre ce matin au regard de l'unanimité de vos commentaires face aux violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud? Ce qui nous intéresse évidemment ce matin, c'est d'essayer de comprendre ce qui ne va pas au sein de la société arc-en-ciel. Que vous inspire la récurrence de ces tensions en Afrique du Sud? Je vous le rappelle, en 2008, puis en 2015, et donc depuis dimanche maintenant, le pays est secoué par une nouvelle vague de violences racistes. Elle vise des ressortissants de la sous-région, des ressortissants de la République démocratique du Congo, du Nigeria, du Zimbabwe, de la Corne de l'Afrique. Ces ressortissants sont accusés tout simplement de venir en Afrique du Sud, qui est la locomotive du continent, de venir prendre le travail des Sud-Africains, des ressortissants boucs émissaires. 7 morts depuis dimanche, c'est le bilan officiel. On en parle, on a des témoignages d'ailleurs d'auditeurs qui nous arrivent d'Afrique du Sud, notamment Alain, qui est déçu par la réaction du président Cyril Ramaphosa. Eh bien Alain, si vous nous écoutez, on vous rappelle dans 10 minutes et vous pourrez évidemment réagir en direct.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.